sera Philippe ou bien Michel.
Radio 18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Et bonjour à toutes, bonjour à tous, il est 18h et vous nous écoutez sur radio-u.org ou sur le 101.1 sur la bande FM à Brest. C'est l'heure de C'est vous qui le dites, la quotidienne d'info de Radio U. Ils étaient plus de 500 hier à défiler pour une vraie loi climat à l'appel de plusieurs collectifs. Nous avions d'ailleurs reçu dans nos studios jeudi dernier Greenvox 29 et Youth for Climate pour continuer à peser alors que les débats s'ouvrent aujourd'hui au Parlement sur la loi climat. Greenvox vous propose de signer des courriers sur leur site, internet, hein, sur les sujets qui vous préoccupent. Ces derniers seront envoyés dès demain matin aux députés. Le programme de ce soir, nous allons parler d'éloquence et plus précisément du concours de plaidoirie interlycée de Brest, co-organisé par la LDH. Nous aurons avec nous dans les studios, la LDH, Ligue des droits de l'homme bien sûr, nous aurons avec nous dans les studios Marie-Vonne Cariou de la LDH et Aurélien Chêne, élève de première du lycée Anne-Marie Javoué, pour en discuter. Ils seront dans les studios en deuxième partie d'émission. Nous vous emmènerons également du côté de Rennes pour un reportage de l'économie autrement, une série de reportages réalisés par la Core Lab. Aujourd'hui, c'est Radio Laser qui vous fera découvrir un centre communautaire de santé. Mais pour débuter cette émission, parlons écologie avec Victor Garcia. Victor Garcia, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans les studios de Radio U.
Merci beaucoup.
Alors, Victor, vous êtes responsable de l'association Ma Pince
tout
Responsable.
Tout à fait, c'est ça.
Ça se répète un peu, mais très bien. L'association Ma Pince Responsable contribue à la protection de l'environnement en organisant des sorties dépollution. Un de vos objectifs est la démocratisation de la pince à déchets. Par ailleurs, le bénéfice des ventes de pinces à déchets présentes sur le site vous permettra de faire des dons de pinces de préhension aux personnes âgées ainsi qu'aux personnes en situation de handicap. Cette association se veut inspirante pour la communauté et veut transformer les paroles en actes. Ça vous va comme description ?
C'est parfait. J'aurais pas fait mieux.
Ouais, très bien. C'est peut-être vous qui l'avez fait d'ailleurs, parce que ça vient de votre site internet.
Oui, voilà, c'est ça. Notez que les pinces à déchets sont pas encore en vente sur le site, mais elles vont pas tarder à être en vente. Voilà. Comme vous l'avez dit, du coup, les ventes de pinces à déchets vont permettre de financer des pinces de préhension pour les maisons de retraite et les personnes aussi en situation de handicap. Voilà.
Eh ben, on y reviendra un peu plus en détail. Première question, facile, comment vous est venue l'idée de monter Ma Pince Responsable?
J'ai toujours été attiré par la protection de l'environnement depuis tout petit, on va dire tout ce qui est écologie, environnement, etc. Alors l'idée de base, c'est parti d'un constat, la pollution dans l'environnement, les bords de mer, etc. Il y a tellement de plastique dans les océans, mais pas que, malheureusement. Alors, l'histoire, c'est un peu particulier. C'est, on va dire que mes grands-parents avaient une pince de préhension, pour le coup. Mmh. Et à un moment, je l'ai emprunté, on va dire, et à mon grand-père, en l'occurrence. Et j'étais sur la plage, j'ai commencé à dépolluer. Je me dis que c'était un gain de temps, un gain d'efficacité également. Et surtout, on se baisse pas au niveau pour ramasser les déchets à chaque fois, quoi. On ne s'abîme pas le dos, on va dire. On gagne du temps, on va dire.
Voilà. Alors, peut-être que vous pouvez décrire, c'est toujours un exercice difficile à la radio, mais décrire ce que c'est une pince de préhension.
Alors, c'est comme la pince à déchets. Mm-hmm. Vous voyez ce que c'est une pince à déchets à peu près. C'est en général, donc, c'est pour ça qu'on veut aussi démocratiser la pince à déchets, c'est que jusqu'à présent, c'est surtout utilisé par les personnes de la mairie qui nettoient les villes. Voilà, donc nous, on veut démocratiser la pince à déchets. La pince de préhension, c'est la même chose qu'une pince à déchets, mais en général plus adaptée pour les personnes justement âgées ou en situation de handicap. Donc elles sont en général plus légères, plus ergonomiques. Au niveau de la manette, c'est plus souple. Mmh. Certaines, on peut également bloquer la position des pinces, voilà, en gros.
Ok. Vous avez déjà fait vos premières sorties, il me semble.
On a créé du coup l'association avec deux autres membres. Ouais. Donc voilà, en fin 2020. Pour bien terminer l'année, voilà, bien reprendre aussi l'année. Donc, Donc on avait fait la première sortie des pollutions il y a 2 semaines au Moulin Blanc. Voilà.
Et alors comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu? Est-ce qu'il y a eu du monde? Qu'est-ce que vous avez ramassé?
On était au moins entre 25 et 30. On a mis du coup un événement sur Facebook. Voilà, donc on a une page Facebook, du coup ma pince responsable, et un compte Instagram également. Donc on a créé l'événement, on a eu pas mal de monde, en gros je me dis 25-30. Mmh. Donc on s'est donné rendez-vous devant le Spadium, la piscine.
Ouais.
Et on a commencé à dépolluer. On a fait deux groupes de personnes, un côté de la plage et un autre de l'autre côté de la plage. Pas mal de déchets, mais comme ça reste une plage au bord de, comment dire, qui est sur la rade, il n'y a pas énormément de déchets comparé à ce qu'on peut malheureusement trouver sur les bords de mer du côté de Conquet, par exemple, ou Pont-Gonvelin ou autre, quoi.
Ouais, c'est-à-dire que là, c'est pas des déchets qui vont être énormément ramenés par la mer, même si avec les marées, forcément, il y en a un petit peu, mais c'est plus des déchets qui sont directement jetés sur la plage, c'est ça?
Tout à fait, où les déchets avec le vent, malheureusement, viennent sur la plage, voilà. Mais tous les déchets qu'on trouve, voilà. Presque la majorité des déchets qu'on trouve dans la mer vient de la terre, forcément. Donc, voilà. Comme je vous dis, on a ramassé quand même quelques sacs, hein, mais il y a plus de déchets dans la mer au niveau de la grande mer, entre guillemets, quoi. Là, c'est une rade, quoi, si vous voulez, quoi.
Et du coup, quel type de déchets vous avez trouvé, vous avez ramassé?
Bon, on trouve de tout, hein. Ça peut être des mégots, on trouve pas mal, donc du filet de pêche aussi. On trouve beaucoup de bâtons de sucette, malheureusement. C'est un classique. Et les mégots aussi. Des plastiques en tout genre. On peut trouver un peu de tout, hein. C'est vraiment, on peut trouver de tout, malheureusement, et n'importe quoi que l'homme peut jeter, voilà. Soit délibérément ou alors des fois ça peut aussi s'envoler, malheureusement avec le coronavirus là il y a pas mal de personnes du coup qui prennent à manger à emporter. Les poubelles sont vite pleines avec le vent, les goélands ou autre, voilà. Mais
justement, en parlant de coronavirus, j'allais vous demander des masques, vous en trouvez beaucoup?
Malheureusement on en trouve pas mal, ouais. En général on retrouve les déchets du coup sur la laisse de mer. Je sais pas si vous connaissez la laisse de mer, mais tout simplement c'est la bande d'algues, en fait. Tous les déchets, la plupart des déchets viennent se loger dans la laisse de mer et également dans les rochers, voilà. Mais les masques, on en trouve pas mal, c'est vrai. Malheureusement, certains les jettent, mais j'ai pu voir aussi des masques qui tombent de la poche. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la pollution des masques, mais des fois, ça tombe de la poche ou du manteau ou autre. Mais il n'y a pas que les gens qui jettent les masques. Voilà. Il y a aussi les pertes, malheureusement, les pertes de masques. Voilà.
Oui, comme tous les déchets de manière générale, hein, je pense à un emballage de, je sais pas, une petite barre chocolatée, par exemple, hein, qui est dans la poche et puis finalement qui tombe.
Oui, ça peut être ça, voilà, ou des personnes, malheureusement, qui n'en ont rien à faire de la planète et qui jettent, voilà, qui pensent que ça va pas avoir d'incidence. Mais bon, quand c'est la durée de vie la durée des déchets dans la nature, c'est incroyable, hein. C'est des centaines d'années pour certains, voire plus, hein, donc voilà.
Ce que je trouve assez hallucinant sur ce sujet-là, c'est que vous n'êtes franchement pas les seuls, hein, à mener des opérations de dépollution. Heureusement, il y a plein des surf clubs, par exemple.
Surf rider.
Voilà, c'est ce que j'allais dire, surf rider, etc., qui organisent ce type d'opération. Et pourtant, à chaque fois, on voit des photos avec énormément de déchets. Le constat global, c'est que, en fait, la mer, les plages, etc., sont énormément pollués, et qu'il faut jamais s'arrêter de
bien dépolluer. Bien sûr, faut toujours continuer. C'est à la base. C'est pour ça qu'on souhaite aussi faire de la sensibilisation, donc auprès des plus jeunes dans les écoles, et lycées, collèges, par exemple. C'est vraiment ça à la base, c'est la sensibilisation de pas jeter son papier par terre ou autre. Après, je sais qu'au niveau de la mer, il y a des programmes d'autres, on va dire fondations, des choses quand même plus grosses qui sont créées depuis pas mal de temps, qui veulent créer, mettons, des bateaux qui vont sur la mer pour dépolluer directement dans les océans. Il y a un projet comme ça de créer un bateau comme la forme d'une rémanta à moitié. Je sais plus le nom exactement de la fondation, mais il y a d'autres fondations, mais vraiment presque mondiales, hein, des grosses choses, qui souhaitent aussi créer des systèmes de filtration au niveau des cours d'eau. Parce qu'il me semble qu'il y a 5-6 grands fleuves qui polluent la majorité, on va dire, de tout ce qu'on retrouve dans l'océan, quoi.
Alors vous, la particularité, contrairement, on le disait, à Surfrider par exemple, ou à toutes les autres opérations de dépollution, généralement chez les autres, ça se passe à la main avec des gants et des sacs. Vous, c'est avec la pince. Donc on l'a dit, c'est aussi pour sensibiliser à l'utilisation de la pince. Mais finalement, ça aide aussi, j'imagine, par exemple les personnes âgées
participer du coup à la dépollution. C'est intergénérationnel aussi, donc on veut démocratiser la pince parce qu'on pense que c'est un objet justement qui est pas assez utilisé jusqu'à présent, à part souvent avec les personnes de la mairie, justement. Et on pense aussi que ça peut être un côté entre guillemets un ludique pour les enfants, un peu comme une chasse aux déchets par exemple. Et aussi, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi un gain de temps. Un gain de temps. Et on gagne, ben, pour son, on protège son dos, on s'évite de se baisser à chaque fois parce que je sais, j'ai fait une dépollution au début, sans la pince à déchets et on se baisse à chaque fois, quoi. Donc, voilà. Et souvent, les pinces à déchets sont aussi pliables, donc on peut les mettre dans le sac. C'est un peu un objet qu'on pourrait éventuellement apporter dans notre sac à dos quand on fait une randonnée ou quand on va, donc on peut mettre dans la voiture et, éventuellement aussi, quoi.
Ouais, donc c'est, en fait, l'idée de cette pince, c'est pour encore plus démocratiser, j'ai envie de dire, la dépollution et le nettoyage des plages.
Voilà, voilà. Après qu'on dépolluait la pince à déchets ou pas, c'est là l'effet le même. Et nous, on propose, on essaie de démocratiser la pince à déchets, voilà. Et aussi, ça c'est le côté donc côté environnement, protection et sensibilisation à l'environnement. Mais on souhaite, du coup, l'autre côté, c'est comme vous l'avez dit, en vendant des pinces à déchets, financer des pinces de prévention pour faire don aux personnes âgées ou aux personnes en situation de handicap, quoi.
Alors, petite question un petit peu piège, on va dire, étant donné qu'on est dans une démarche écologique, il y a quand même pas mal de pinces qui sont faites à base de pétrole. Est-ce que c'est pas contradictoire ou est-ce que justement il y a des pinces qui sont peut-être pas faites à base de pétrole et qu'on pourrait mettre en avant?
C'est une très bonne question. Alors, on a réfléchi pas mal de temps avant. Du coup, là, on voulait créer notre propre pince en bois, en fait. Voilà. Donc ça reste un peu en stand-by pour l'instant, parce qu'on était en train de chercher justement des ébénistes. En gros, on était en contact avec le lycée de l'Élorne, le lycée bois, en fait, de Landerneau, pardon. Ouais. Et pour créer une pince, on va dire en bois, un peu comme les pinces à toast, si tu veux, en plus grand, quoi.
Ok, donc c'est vraiment dans les projets.
C'est dans les projets, voilà, ouais. Mais pour l'instant, du coup, ça reste en stand-by un petit peu, mais éventuellement, par la suite, on pourrait créer notre propre pince à déchets en bois. Parce qu'on, justement, on avait justement ce constat-là aussi, qu'on voulait pas, au tout début, pour te dire, en fait, on voulait récupérer des polluants, forcément, récupérer ensuite des plastiques, éventuellement, après, si tu veux, les broyer pour faire, en impression 3D, des pinces à déchets. Mais on s'est dit après réflexion que déjà qu'il faudrait beaucoup de plastique et puis c'est pas le même plastique et tous les plastiques ne sont pas réutilisables à l'infini et puis ça c'est encore du plastique si tu veux. Ouais. Faire du plastique avec du plastique en gros quoi si tu veux.
Oui, c'est donc, ça c'est que l'idée
on veut éradiquer le plastique en gros. Bon, ouais, pas que quoi si tu veux. Voilà.
Ouais, c'est ça, c'est que l'idée quand on parle de dépollution, etc., comme tu le disais, c'est à un moment donné éradiquer le plastique, s'en débarrasser.
C'est ça. Ouais. Après nous, du coup, pour l'instant, on va vendre, proposer des pinces en plastique pour l'instant, mais en attendant éventuellement qu'on crée nos propres pinces en bois, on va dire, bois ou en bambou, voilà.
Ok. En gros. Ouais. C'est vrai que le bambou, c'est très résistant, ça peut être une bonne idée.
Voilà, mais c'est un peu le projet. Pour l'instant, c'est un peu en stand-by, mais ça va pas tarder. Donc, c'est pour ça qu'on, pour l'instant, on prend la pince en plastique, mais on préfère que ce soit même si c'est du plastique, comme tu dis, ça reste un objet pour dépolluer. Voilà, faut pas. Ouais. C'est un objet utile quand même.
Oui, c'est
voilà,
sûr.
Voilà, c'est pas un jouet en plastique qui va polluer, voilà quoi.
Oui, qui va durer quelques années, qui va se retrouver jeté et que vous allez devoir ramasser sur la plage plus tard avec des pinces peut-être en bambou dans quelques années.
Ouais, c'est pas le but.
Donc on le disait, le combat c'est énormément la sensibilisation écologique. On n'a pas encore tant que ça parlait de l'aide à l'autonomie. Qu'est-ce que justement vous voulez faire? Quelle est l'ambition de l'asso là-dessus sur l'aide à l'autonomie?
Du coup, comme je te disais tout à l'heure, j'ai eu l'idée avec mes grands-parents. Du coup, c'est la même chose. Une phase de prévention, c'est pour ramasser les objets par terre. Mettons le crayon tombe par terre. Ben, la personne âgée, malheureusement, ou peut pas se baisser, ou risque ça. On prévient les risques de chute. Ou la personne en fauteuil roulant, mobilité réduite. Peut pas forcément attraper les objets par terre ou à une certaine distance, donc c'est un peu entre guillemets un prolongement du bras. Donc on souhaite du coup acheter des pinces de prévention et en faire don avec la vente des pinces, la pince à déchets. En gros, c'est un peu faire un cercle vertueux si tu veux, d'un côté la protection de l'environnement et d'un côté la santé avec l'aide à l'autonomie. Voilà, donc intergénérationnel, on va dire que j'aime bien l'idée que les jeunes, la nouvelle génération plein d'optimistes, dépolluer la planète et un peu comme, comme je te dis, la chasse aux déchets pour, et que ça permette de financer des pinces pour les personnes qui en ont besoin, on va dire. Ouais.
Est-ce qu'il y a, parce que là, il y a quand même déjà pas mal de projets, est-ce qu'il y a d'autres choses dans les bacs, je sais pas, là, j'imagine totalement, mais des actions de sensibilisation au niveau quand on parle d'intergénérationnel, ça peut être aller dans les établissements scolaires, par exemple, oui, pour en parler, etc. Ça, c'est dans les projets?
Oui, bien sûr, comme je disais, donc, c'est dans la sensibilisation et la protection, donc sensibilisation, c'est éventuellement d'aller dans les écoles, primaire ou dès le plus jeune âge pour les sensibiliser du coup à la protection de l'environnement, quoi, pour leur expliquer un petit peu la durée de vie des déchets, etc., que c'est, voilà, faut pas jeter son papier d'emballage dans la nature. Voilà, après, on a pas mal de projets aussi. On souhaite éventuellement créer, pourquoi pas, du coup, faire des sorties des pollutions, éventuellement faire différents concepts de sorties des pollutions, par exemple des randonnées écologie, on va dire, des randos écolo, si tu veux. On prend un parcours de randonnée et on se met là avec nos pinces à déchets et on fait le parcours de randonnée et on dépollue sur notre passage, par exemple. Il y a plusieurs, je te dis pas tout, mais il y a plusieurs projets dans les bacs, on va dire.
Ok, donc poursuivre, on le rappelle, les réseaux sociaux essentiellement, voilà. Facebook, donc, Instagram.
On a une page Facebook, du coup, donc ma pince responsable. Et Instagram aussi, ma pince responsable.
Ok, donc là, on peut suivre toutes les actualités. Voilà, est-ce que la prochaine sortie est déjà programmée?
Non, pas encore.
On se tire à l'affût sur les réseaux sociaux.
On crée un événement sur Facebook et vous pouvez vous inscrire sur l'événement. Pas de souci, avec plaisir.
Pour l'instant, ça a plutôt marché sur du bouche à oreille, si j'ai compris, et par les réseaux sociaux, c'est ça? Ça a fait son chemin petit à petit.
Voilà, c'est ça. On a créé du coup l'association fin 2020. J'ai créé dans la foulée le compte Instagram et compte Facebook. Après, c'est du bouche à oreille, comme tu dis, et on a contacté aussi la presse. Ouais. Donc côté Brest, Ouest France et Telegram pour présenter l'association, mais c'était plus pour l'événement du Moulin Blanc il y a deux semaines, quoi. C'était le 13 mars.
Voilà. J'imagine que comme toute association, si on est plein de volonté, qu'on veut vous rejoindre, etc., et devenir bénévole, c'est possible, la porte est ouverte.
Tout à fait, bien sûr, tout le monde est bienvenu, bien sûr.
On fait comment? On vous contacte sur les réseaux sociaux, via votre site internet? Il y a aussi une adresse mail.
Bien sûr, on a une adresse mail. Donc c'est mapinceresponsable@gmail.com. Donc le compte Facebook et Instagram. On a notre site internet aussi. Donc c'est www.mapinceresponsable.com. Donc où on pourra retrouver les pinces. En tout cas, ce sera dans un premier temps un seul modèle de pince à déchets, du coup, qui permettra de financer les pinces de prévention. On pourra retrouver aussi les sorties des pollutions également. Mais le site, ça sera surtout. On explique en gros l'association, quoi, le concept.
Et si on veut vous aider et qu'on manque de temps, il me semble qu'il y a une dernière solution, c'est le don. Il y a une page don sur votre site.
Elle n'est pas encore tout à fait finie. On aura du coup un compte Eloasso qui sera relié à notre site internet où les gens pourront faire des dons. Les dons, essentiellement les dons, quoi.
Et donc les dons, ils serviront à acheter des pinces qui seront redistribuées, c'est ça?
Voilà, tout à fait. On va dire qu'on espère, pour deux ventes de pinces à déchets, on espère pouvoir faire un don d'une pince de prévention. Voilà. On va commencer aussi les démarches auprès des maisons de retraite, l'établissement aussi pour les personnes en situation de handicap. C'est vraiment deux choses qui nous tiennent à cœur, vraiment les côtés l'aide à l'autonomie des personnes qui en ont besoin, que ça pourrait vraiment aider dans leur vie du quotidien pour plus d'autonomie, et de l'autre côté vraiment la protection de l'environnement.
Eh ben merci beaucoup, Victor Garcia de Ma Pince Responsable. On rappelle une dernière fois, pour suivre les actualités, pour se renseigner, pour éventuellement devenir bénévole ou bientôt prochainement faire un don. Il y a le Facebook, Instagram et le site internet. Merci beaucoup, Victor Garcia, d'avoir été avec nous. Avant de parler éloquence et plaidoirie, un titre de celui qui a fait beaucoup dernièrement pour faire connaître au plus grand nombre les concours d'éloquence. On parle de Kerry James, bien sûr, qui est ici avec le titre Racaille.
Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
On devrait vous nettoyer au Karcher. Le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher. On a le sentiment qu'aller voter, c'est choisir par lequel d'entre vous on veut se faire entuber. Républicain ou PS, Rangez vos promesses dans vos sacs Hermès. Vous n'avez jamais connu la précarité. Vous vivez à l'écart de nos réalités. La rue le pense, je le mets en musique. Et pour ceux qui l'ignorent encore, je le rends public. Je ne soutiens aucun parti, je marche plus dans vos combines. Vos programmes électoraux ne sont que des comptines. On prend les mêmes et on recommence. Les mêmes promesses, les mêmes mensonges. Les mêmes tapes dans la caisse. Les mêmes plonges, les mêmes sons dans la hesse. Les mêmes manges, les mêmes menteurs. Trafic, les mêmes comptes. Les mêmes commis au service des mêmes pontes. Les mêmes fils de pauvres sont incarcérés. Les mêmes fils de riches sont formés pour régner. En attendant qu'un homme du peuple émerge, c'est rare de trouver un élu avec un casier vierge. Ma haine du système est toujours intacte. Lequel d'entre eux peut jeter la pierre à Cahuzac? Claude Guéant, Balkany, Jean-François Copé, Philippe Bernard, Harlem Désir, Alain Juppé, tous ceux que j'ai cités ont été condamnés. Ce sont les mecs de cité qui traitent comme des damnés. Vous étiez choqués par le groupe Tandem. Vous faites la même à la France, mais jusqu'à ce qu'elle saigne, jusqu'à ce qu'elle coule, comme la Grèce ou l'Italie. Vous avez meurtri le pays jusqu'à l'agonie. Cumul des mandats jusqu'où vous irez. Est-ce le cumul des salaires que vous désirez? Comme toute la France d'en bas, je crois plus aux politiciens. Je continue le combat, je crois au réveil citoyen. Pour changer les choses, il faut le vouloir. Vous n'avez pas de cause profonde si ce n'est le pouvoir. Vous faites de la politique sans conviction. Parfois vous en faites même pour éviter la prison. En costume cravate sont les vrais voyous. Vous ne croyez plus à rien, plus personne croit en vous. Y'a qu'à observer les taux d'abstention. Faut pas trop prendre les gens pour des cons, attention. Sentez-vous le vent tourner comme vos vestes. Entre vous et la rue, y'a plus que les CRS. À bout de souffle, votre système est dans un cul-de-sac. À essayer de te battre comme un cul-de-chat. Vous êtes élu pour un truc, vous ne le faites pas. Plus vous faites l'inverse, en plus ça ne vous gêne pas. Et si le peuple a l'idée de se rebeller, vous disposez d'une armée de flics bien dressée et scellée. Le dialogue social, j'ai dans un cercueil. Les keufs tirent au flashball, tu peux y perdre un œil. Vous faites monter le sentiment anti-policier. Usez de la police comme d'une armée privatisée.
Le politique, qu'il soit femme ou homme, pour moi en tous les cas, et pour l'instant, peut-être que demain j'aurai changé d'avis, il ne sert plus à rien. C'est un prestataire de service. Ces putains de dettes là qui emmerdent tout le monde, qui mettent les peuples à plat, qui les mettent à genoux et ainsi de suite, on n'arrive pas à les éliminer. Comme vous les politiques, vous n'arrivez pas à les faire éliminer, ces putains de dettes. Parce que la banque elle est plus forte que vous.
La banque elle est plus forte que vous.
La banque elle est plus forte que vous. La banque elle est plus
forte que vous. Tout le monde le sait, c'est une évidence. Vous êtes complètement soumis à la finance. Vous votez les lois que les riches ordonnent. Après le 49-3, plus rien ne m'étonne. On travaille plus mais on gagne moins. On attend juste le printemps européen. On cotise pour des retraites qu'on ne verra peut-être jamais. Tout l'argent qu'on fait rentrer, vous nous le reprenez. Chaque fin du mois à découvert. On a l'impression d'être esclave du système bancaire. Les plus riches connaissent le jeu, jouissent de niches fiscales. Les petites PME croulent sous les charges sociales. Rabat, on paye, péage, on paye, pollution, on paye. Qu'est-ce que vous faites avec tout ce fric? Que foutez Eric Zemmour sur une chaîne publique? Payez pour propager sa haine, semer des graines récoltées par le FN. Pour vous-même, Marine Le Pen est devenue fréquentable. Quiconque combat l'islam peut s'asseoir à votre table. Incapable de gouverner, vous divisez. Incapable de rassembler, vous stigmatisez. Aveuglé par le pouvoir, vos cœurs sont voilés. Beaucoup plus que le visage de cette femme voilée. Que vos prétendus principes de laïcité ne concernent pas cette Saoudienne sur les Champs-Élysées. Pour vous tous négocier, tout est question de joie. Vous êtes même prêts à livrer les banlieues au Qatar. Votre jeu est trouble. Votre discours est double. Au pays dit des droits de l'homme. L'état d'urgence est devenu la norme. Et vous prétendez faire la leçon au monde entier. Imposer la démocratie à coups de mortier. Sans pitié, vous avez buté Kadhafi. Aujourd'hui, dans quel état se retrouve la Libye? La roue le sait, je le mets en musique. Vos médias le taisent, je le rends public. Je vous tiens tête comme un mec des minguettes. Est-ce le genre de texte qui peut me valoir une fiche S? Droit dans mes bottes, je ne baisse jamais mon froc, la tête haute, je suis intègre. Je fais du hip-hop, vous appelez ça de la musique nègre. Je suis en Inde, tu me verras plus jamais mettre les pieds à Skyrock. Ils n'aiment pas ce que je suis, ce que je défends, ce que je porte, c'est réciproque. Ils ont travesti le RAP, je fais partie des rescapés. Ils ont encensé la médiocrité, ils ont fait du hip-hop de la variété. Ils ont joué les clashs pour nous diviser. Tant que ça fait de l'audience, on peut s'allumer. Quand un rappeur se fera bouter, ils organiseront un concert au nom de la paix. Yeah. fais de la musique contestataire. Vous vendez des espaces publicitaires. Je me suis sacrifié pour mes petits frères. Pour vous jouer des trucs qui les envoient au cimetière. Fric et violence dans vos playlists. Vous abrutissez les miens, ça plaît aux élites. Vous vous êtes servi de moi, je me suis servi de vous. Pour que mon message passe au plus grand nombre, maintenant je peux le faire sans vous. J'ai un public qui me soutient. Je fais des choses, le peuple s'en souvient. La rue vous vomit, je le rends public. Rien n'a changé depuis Lettre à la République.
Vous êtes toujours sur le 101.1 de Radio U pour la quotidienne d'info locale. C'est vous qui le dites. Après avoir entendu l'éloquent Kerry James, parlons d'un concours de plaidoirie avec Marie-Vonne Cariou de la LDH et Aurélien Chêne, élève de première à Anne-Marie Javoué. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et bienvenue dans nos studios de Radio U. Merci. Alors, la section Brest Métropole de la LDH, la Ligue des Droits de l'Homme, organise cette année son premier concours de plaidoirie interlycée sur la ville de Brest. C'est ce que vous m'avez dit, Marie-Vonne. D'autres concours d'éloquence existent à Brest, mais votre projet s'en distingue par son objectif premier construit autour de la citoyenneté. Il s'agit d'inciter les lycéens à un travail de réflexion sur l'état des droits humains fondamentaux en France et dans le monde et sur les discriminations qui résultent des atteintes à ces droits. Ça va, c'est bien résumé.
C'est exactement ça.
Ça tombe bien, c'est vos mots en même temps.
Tout à fait, je les reconnais.
On va commencer par le problématique, entre guillemets. Logiquement, ça a lieu donc le 6 avril, 13h30 à 17h au lycée du Puy-de-Dôme. Il devait y avoir du public. Oui. Finalement, ça va être compliqué avec la crise sanitaire, c'est ça?
Ça va être compliqué. C'est vrai qu'on est là tous un petit peu en état d'alerte, en essayant de monter un plan B. On voulait absolument maintenir ce concours qui est travaillé quand même depuis le mois de septembre-octobre dans 6 lycées brestois. Je me voyais pas dire oh ben non, finalement, on fera ça une autre année. C'était pas possible. C'était pratiquement impossible à déplacer également. Il y avait trop de contraintes. Et puis déplacer dans quel avenir. Donc, on va bien maintenir la journée à Dupuy-de-Dôme, l'après-midi à Dupuy-de-Dôme, mais avec une grande frustration, puisque les lycéens, les délégations de lycéens qui devaient venir soutenir leurs champions, ne pourront pas être accueillis. Voilà.
Ouais, effectivement, ça va laisser peut-être un petit goût amer pour ceux qui vont participer et qui auraient dû être soutenus. C'est ton cas, Aurélien, justement, qu'est-ce que t'en penses de cette situation?
Alors, je trouve ça assez décevant puisque, bah voilà, c'est un travail de groupe pour nous, en tout cas, et on se retrouve à travailler en groupe et avoir qu'une seule, enfin, deux personnes, puisque nous sommes un duo à y aller. Et bon, ça fait un peu de peine pour les gens qui ont travaillé dessus, mais qui ne pourront pas venir. Mais bon, c'est bon. On fera avec, hein.
Alors, peut-être pour préciser pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec les concours d'éloquence ou les concours de plaidoirie, je vous ai pris un petit extrait, je vous le fais écouter et puis on en discute juste après, on va voir si ça vous parle.
Clément Vitrovitch donne aussi des cours de rhétorique à Montreuil, et dans le film il y a une question rhétorique, c'est laquelle?
L'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues?
Allez, battez-vous.
Allez, vas-y.
Et je prends quelle position?
Oui.
Oui, l'État est le seul responsable de la situation en banlieue. La politique, c'est ce qui organise notre vivre ensemble. Et la politique, elle dépend de l'État. Au bout du compte, toutes les décisions reviennent à l'État. C'est la politique qui doit organiser notre vie. C'est elle qui prend des décisions. C'est elle qui décide comment on alloue l'argent, comment on investit les crédits. Et comment on investit les crédits, c'est aussi ce qui définit comment est-ce qu'on va répartir le pouvoir dans la société. Alors bien sûr, Kerry James, vous me parlerez de responsabilité individuelle. Les individus sont toujours libres. Mais comment ignorer le fait que certains ont moins, que certains n'ont rien, et que n'ayant rien, ils font ce qu'ils peuvent?
Kerry James.
Émancipation. Émancipation. Mon discours sera celui de l'émancipation et de la responsabilisation. Son discours, celui de la victimisation. L'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues. Mesdames et messieurs les jurés, il me semble que la question qui nous est posée en implique deux autres plus larges, plus universelles. La première, est-ce que le fait d'être gouverné exempte impérativement les citoyens de toute responsabilité ? Non. La simple présence de gouvernants n'exonère pas de fait les gouvernés de toute responsabilité, sauf pour celui qui prétend considérer tout gouverné comme on considère un enfant et qui souhaite attribuer la parenté de chacun de ses enfants au gouvernant. Mais la banlieue n'est pas une immense crèche à ciel ouvert peuplée de nouveau-nés. Il y a en banlieue, comme partout en France, des gens désireux de prendre pleinement part à leur propre histoire et à celle du pays.
Pas mal.
Super. Est-ce que vous avez reconnu cet extrait, Marie Van Cariou, Aurélien Chêne?
Non, mais vous allez nous dépanner.
Non, pareil, je n'ai pas reconnu.
Alors, c'est extrait de l'émission Click, présentée par Mouloud Achour, et ouais. Donc c'était évidemment Kerry James, ça on l'a entendu, ouais. Et Clément Viktorovitch, qui est professeur de rhétorique, bien connu sur les réseaux sociaux, puisqu'il décrypte la rhétorique, notamment de nos hommes politiques. Est-ce que ça va se passer de cette manière? Alors là, évidemment, c'est dans une émission de télé, c'est un jeu, c'est très court, voilà, chacun a eu à peu près une minute pour répondre. Ça va être de cette manière-là, c'est-à-dire un sujet, quelqu'un qui doit répondre oui, quelqu'un qui doit répondre non, évidemment, en argumentant, etc. Ou comment ça va se passer, Marie Van Cariou?
Oui, c'est pas tout à fait comme ça. C'est d'abord, les lycéens travaillent depuis donc presque la rentrée sur un sujet qui les préoccupe. Ils ont donc monté un dossier, finalement, documentaire sur le sujet. J'ai pu, mais pas dans tous les lycées, parce que c'était compliqué en termes d'emploi du temps, mais intervenir parfois avec une avocate. Une avocate qui elle-même avait été lauréate du concours de plaidoirie de Caen, et qui donc a pu passer dans quelques-uns des lycées chanceux, expliquer justement comment on monte une plaidoirie. Et là, vraiment, il faut qu'il nous prouve qu'il y a bien un droit de l'homme qui a été bafoué. Hein, qu'ils nous disent, ben voilà, il y a un droit de l'homme qui est inscrit dans notre Constitution, qui est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est inscrit, voilà. Et là, dans cette situation-là, ce droit-là, voilà. Et ça, c'est intolérable. Et ça, moi, je ne le supporte pas. Et en fait, il faut que le jury se dise à la fin, voilà, moi, c'est ce droit-là que je veux défendre en premier, même si tous, évidemment, vont être des droits importants.
Ouais, d'accord, ok, on voit l'idée, mais effectivement, même si voilà, un jury a envie de tout défendre, là, faut sélectionner voilà, celui ou celle, d'ailleurs, hein, j'imagine, qui a été le plus convaincant ou la plus convaincante. Toi, Aurélien, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer? Comment ça s'est passé?
Pour avoir envie de participer au concours d'éloquence, alors moi, j'ai toujours été très intéressé par tout ce qui touche à le savoir parler, savoir être, etc. Et je trouve que c'est un très bel exercice, surtout que j'ai envie de faire du droit certainement plus tard, donc ça m'a beaucoup touché. Mais puis ensuite, en travaillant sur les différents sujets, parce que voilà, nous on a fait ça en groupe avec la classe de latin, j'ai bien aimé un peu ce sujet et je trouve que c'était intéressant de travailler dessus, surtout en binôme, donc.
Alors, est-ce qu'on a le droit de savoir ou est-ce que ça va déstabiliser le jury si c'est révélé à l'avance?
Je pense que vous pouvez, Aurélien.
On peut, très bien. Alors, nous, parce que je dis nous, puisqu'en fait, dans le cadre, enfin, avec Anne-Marie Jaouet, nous, l'école envoie en fait un binôme et non un champion.
Ouais.
Donc voilà, donc je passe avec une fille, Louise Archambault. Et alors, comme sujet, on a choisi après mûre réflexion et longue réflexion quand même, les enfants fantômes.
Ok, très bien. Et du coup, le sujet, comment il a été choisi? Je sais pas, vous êtes concerté, vous avez réfléchi pendant des semaines à vous demander voilà, qu'est-ce qui peut être le plus intéressant à défendre?
Alors, on est resté sur l'idée qu'il fallait un engagement citoyen pour rester dans la thématique. Et on a eu plusieurs sujets, puisqu'on a travaillé ça en groupe, donc même avec les personnes qui ne vont pas passer à l'oral. Et il y a eu plusieurs sujets qui sont revenus, alors des sujets qui sont complètement dans l'air du temps, autour du Covid par exemple, mais aussi des droits des femmes, puisqu'on a quelques filles qui tenaient à ça. Et en fin de compte, en cherchant un peu...
Et puis c'est dans l'air du temps aussi.
Hein. C'est dans l'air du temps aussi, bien sûr. Surtout actuellement. Et puis ensuite, on est venu sur un sujet en fait qu'on ne connaissait quasiment pas ou très rapidement de nom, c'est les enfants fantômes. On a tous été un peu intrigués par ce sujet, et on a trouvé ça intéressant de travailler dessus, puisque en effet, c'est un sujet qui est assez méconnu du grand public.
Et donc, quand tu dis que c'est un travail de groupe, c'est pas seulement le binôme, vous êtes plus en fait à travailler dessus ?
Voilà, c'est ça en fait. Il y a toute la classe de latin en première, donc 6 personnes. Et donc voilà, donc on a fait passer des idées, on a travaillé sur quelles seraient les bonnes manières d'aborder le sujet, les manières de formuler le sujet aussi, etc. Donc oui, c'est complètement un travail de groupe, donc les personnes qui ne passeront pas à l'oral ont aussi complètement travaillé dessus, donné des idées, même des morceaux de phrases qui vont être très intéressants à travailler d'ailleurs.
Marie-Yvonne Carieux, ça s'est passé comme ça dans tous les lycées, on peut peut-être les citer, hein, ceux qui participent, du Puy-de-Lôme, l'Iroise, la Pérouse, autrefois appelée Kerichène-Joinville, Sainte-Anne, la Croix-Rouge et évidemment Anne-Marie Javoué. Ça s'est passé comme ça à chaque fois, ou chaque lycée a ses méthodes, ses manières différentes de travailler ?
Autonomie totale et résultats très très différents dans chaque lycée. Moi, je suis passée dans tous les lycées, j'ai exposé le projet, j'ai présenté la Ligue des droits de l'homme aussi, à travers son historique et tous les droits, tous les combats qu'elle a menés pour la défense des droits. Et j'ai donné les contraintes de temps, ils ont entre 6 et 8 minutes. Et puis après, voilà, c'est chaque lycée qui travaille de manière autonome et qui a sélectionné de manière autonome. Je pense que dans la majorité des lycées quand même, les élèves ont travaillé souvent à deux, mais sur des sujets particuliers. Dans la classe, il y a pu avoir une classe de 30, il y a peut-être eu une quinzaine ou une douzaine de sujets travaillés. Ensuite, ils ont fait, alors ça dépendait, mais il y a des lycées qui ont présenté beaucoup d'élèves. À la Pérouse, ils sont 80, à la Croix-Rouge à peu près autant, à l'Iroise c'est un plus petit groupe, mais enfin quand même assez conséquent. Et donc ils sont passés souvent en amphi avec des adultes autres que leurs enseignants qui ont fait un premier choix. Quelquefois il y a eu deux, il y a eu un choix dans la classe, puis un choix interclasse. Et se présenteront à Dupuy mardi les derniers qui ont été retenus.
Les champions. Ok. Oui, donc il y a quand même, finalement, j'ai envie de dire, un fort engouement autour de ce projet-là. S'il y en a 80 à la Pérouse, j'ai pas du tout en tête le chiffre global du nombre d'élèves à la Pérouse, mais 80, ça me paraît être un bon pourcentage.
Ouais. En fait, ce sont des enseignants qui se sont emparés du sujet et qui ont fait travailler deux classes, trois classes. Et donc on arrive vite à des chiffres assez assez importants. Et ça a été leur thématique de travail une de leurs thématiques de travail pendant l'année.
Voilà. Aurélien, je me retourne vers toi. 8 à 10 minutes à l'oral, que ce soit tout seul ou à deux, c'est long. En radio, on sait ce que c'est quand il faut le faire. T'as pas d'appréhension là-dessus ? Vous avez suffisamment travaillé ?
Non.
Tu te sens prêt ?
Oui, moi je me sens plutôt prêt, ça va. Non, pas beaucoup d'appréhension. Je pense que ça va bien se passer. Et puis alors voilà, comme nous, on est en plein dans le sujet, on est très touchés par ce sujet-là. C'est que du plaisir, on voit pas le temps passer quand on s'entraîne, donc pas de problème.
Alors comment ça se passe ? Est-ce que ça j'imagine que c'est une question que les auditeurs doivent se poser en ce moment. Est-ce que vous allez tout écrire ? Vous avez tout décrit ? Ou est-ce qu'il y a une grande part d'improvisation ? Quelle est la part d'improvisation dedans ?
Alors, c'est une question intéressante puisque ça peut se voir de deux manières. Je pense que selon les gens, il va en avoir certains qui vont préférer avoir une partie même tout leur sujet très bien écrit, juste appris par cœur et certainement de la récitation. Et moi, j'ai une approche qui est un peu différente, c'est-à-dire que je pense qu'il faut avoir une trame qui est déjà préparée, qui est très éclaircie, mais qu'il faut aussi pouvoir s'adapter, puisque en effet, on sera déjà dans des conditions particulières dues au Covid-19, etc. Et je pense que c'est intéressant aussi de assez bien connaître son sujet pour pouvoir, si par exemple il y a un trou de mémoire ou des choses comme ça qui peut arriver, pouvoir réagir et avoir quelque chose d'éloquent quand même.
Donc toi, l'option choisie, c'est de bien connaître son sujet, de le maîtriser, d'avoir un plan et voilà. On y va comme ça.
Alors non, il faut bien sûr travailler un peu une introduction, travailler son schéma de texte. Alors pour ça, nous, on s'est pas mal inspiré des techniques ancestrales, entre guillemets, avec l'éthos, pathos, logos, qu'on retrouvait à l'Antiquité, ou encore avec Cicéron, avec l'exorde, l'argumentation et la péroraison, qui sont des valeurs qui fonctionnent bien, et donc qui nous permettent de construire un texte qui peut, dans tous les cas, marcher, même avec un peu d'improvisation.
Une petite question au point de vue règle, là du coup je me retourne vers vous, oui. Marie-Yvonne Cario. Est-ce que les élèves ont le droit d'arriver avec des notes, un papier, ou c'est, faut tout savoir d'avance, et tant pis, on n'a pas le droit d'avoir une petite anti-sèche.
Alors j'avais tenté, dans un premier temps, en écrivant le règlement intérieur, effectivement l'option pas d'anti-sèche, puisque finalement pour le grand oral, qui était aussi quelque part dans mes objectifs de faire travailler les élèves, autour de cette prestation orale qui est pas si évidente et qu'on a peu l'occasion de travailler, enfin pas assez en tout cas en lycée, je m'étais dit pas de notes. Et puis j'ai cédé. Des notes minimalistes, mais finalement un avocat, il se retourne vers ses dossiers pour retrouver un chiffre, pour retrouver une trame. Donc pourquoi pas.
Voilà. Oui, l'idée, j'imagine, c'est de pas arriver avec 4 pages imprimées et de tout lire. Là
on est plus... perdre.
Oui, c'est ça. Et puis on n'est plus vraiment dans l'éloquence.
Tout à fait.
Je reviens à Kerry James, parce que si j'ai diffusé la musique et si je vous ai diffusé son extrait, c'est qu'il a fait beaucoup récemment pour les concours d'éloquence, les concours de plaidoirie. Est-ce que c'est aussi ça, le fait qu'il soit passé avec sa pièce de théâtre au Quartz, etc., qui a amené une dynamique, une envie, ou rien à voir?
Pour moi, rien à voir. J'ai vraiment... il se trouvait que voilà, j'avais plus de temps là, et j'ai voulu se rencontrer deux de mes préoccupations, la défense des droits de l'homme. Je suis militante de la LDH depuis quelques années, et puis je suis une ancienne prof, hein, et je trouvais toujours dommage qu'on n'ait pas assez le temps de travailler l'oral. Et j'ai trouvé que c'était une façon de conjuguer les deux, de sensibiliser les jeunes aux problématiques autour des droits de l'homme. Je me suis dit que cette année c'était particulièrement important, ça l'est toujours, mais c'est vrai que cette année, avec les sujets tragiques autour de la mort de Samuel Paty et donc la liberté d'expression, et puis autour aussi cette épidémie de Covid là, jusqu'où on est prêt pour assurer notre sécurité à rogner sur des libertés, enfin je trouvais qu'il y avait pas mal de thématiques intéressantes.
Et sur cette question de l'oral, est-ce que c'est finalement, on va le dire comme ça, un problème dans le système scolaire français de pas tellement avoir cette culture de l'oral? On est quand même sur des examens, on a une grosse culture de l'écrit. Est-ce que c'est un problème pour vous?
Oui, ça l'a toujours été. J'enseignais en section technologique avec des matières qui laissaient une très large part et beaucoup de coefficients à l'oral. Or, j'avais la frustration de ne pas suffisamment bien préparer mes élèves à l'oral, et finalement les disparités qu'il y a entre les élèves, entre leurs origines sociales aussi quelquefois, je trouvais que nous n'avions pas assez la possibilité de les atténuer.
Pour revenir à cette question sur Kerry James et sur comment tu en es venu, toi Aurélien, à avoir envie de participer au concours de plaidoirie et d'éloquence, t'en as entendu parler comme ça ou pas du tout? C'est quand on t'a présenté le projet, tu t'es dit c'est intéressant.
Des concours d'éloquence, écoutez, je sais pas trop, puisqu'en fait, je pense que c'est aussi le côté d'entendre des grands orateurs, tels que par exemple Obama, ou des choses comme ça, qui m'ont donné envie. Et puis, cette façon aussi de pouvoir toucher les gens par la parole, que je trouve très beau. Et voilà, et alors oui, en plus, quand Madame Danilou, ma prof de latin, m'a dit qu'il y avait un potentiel concours d'éloquence qui était prévu, bien sûr, je me suis présenté, j'étais très content de pouvoir faire cet exercice qui est quand même très intéressant. Et en plus, nous prépare à l'oral du bac, comme l'a dit madame.
Et justement, toi, en tant que qu'élève, je vais te poser la même question quasiment qu'à Marie-Yvonne Cario. Est-ce que tu trouves que le système scolaire français est trop basé sur l'écrit? T'aurais aimé avoir plus d'oral, plus de d'examen à l'oral, etc. Ou t'es partagé?
Je trouve qu'il est important d'avoir plus encore plus d'oral dans le système scolaire français, même si je pense que l'écrit est quand même important, surtout en France. On voit que toutes les lois sont faites à l'écrit, contrairement en Angleterre ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que l'oral, c'est quand même important. C'est ce qui nous permet d'avoir une bonne élocution, de pouvoir communiquer avec les gens. Et c'est quelque chose qui, qu'il faut continuer à travailler et à améliorer, même si on voit que ça s'est bien amélioré depuis une vingtaine d'années au moins dans le système scolaire français actuellement.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous dans les studios de Radio U. Merci beaucoup Marie-Yvonne Cario de la Ligue des Droits de l'Homme. Et puis merci et bon courage Aurélien, merci. Je rappelle, élève de première au lycée Anne-Marie Javoué. Il te reste une semaine pour peaufiner les derniers petits réglages avant de passer cet oral qui sera donc le 6 avril à partir de 13h30 au lycée du Puy-de-Dôme. Je vous dis tout ça, mais malheureusement, personne ne pourra y assister. Crise sanitaire oblige. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été
merci
avec nous
vous.
Dans les studios.
Merci.
Une pause en musique et on écoute quelqu'un qui se débrouille pas mal, d'ailleurs, à l'oral, au niveau éloquence. C'est Peter Love avec le titre Parfait pour demain.
Que j'ai déjà tout dit, ça ne reviendra pas. Je vois bien que tu t'ennuies de devoir parler à ma place. Mais où est la partie qui discute avec vous? Je compte sur quelques sourires pour qu'on ne parle jamais de nous. Bientôt je te laisse de quoi voler. Pardonne-moi d'avoir réparé la glace, mais j'ai perdu tous les mots, fermé tous les volets. Le bitume a recouvert la plage, le sable souffle maintenant sur les autres. C'est parfait pour demain, si on ne parle pas. C'est pas vrai, tout deviendra comme avant, si tu me dis ce qui ne va pas. Alors, c'est parfait pour demain. Pas du bord, on sait tous les deux ce qu'on cherche à fuir. Plus rien n'est comme maintenant. Les flammes des bougies ont fini par s'attaquer à la langue. On remplace les vieux instants, les sourires qui voulaient tout dire par ceux qui reculent la chute. Une fois décidé à courir, ne rien dire devient pas mal, surtout si on évite les adieux. Taisons-nous un dernier soir, évitons les aveux. Amour malade, impossible à soigner par thérapie. C'est que quand on s'arrête de parler, que l'on sent qu'on s'évanouit. Amour malade, le poids que j'ai dans le bide s'éclaire la nuit. J'ai juste besoin de te regarder pour savoir ce qui est parti. C'est parfait pour demain, ne viens pas me voir. Je ne t'en voudrais pas si tu ne dis pas au revoir. C'est parfait pour demain, tu ne veux plus me croire. Je ne t'en voudrais pas. C'est parfait pour demain. C'est parfait pour demain.
C'était le Brestois Peter Love avec le titre parfait pour demain. Vous écoutez toujours Radio U, vous écoutez la quotidienne d'info, c'est vous qui le dites. Petite précision sur Peter Love, hein, son EP qui s'appelle Upsi est sorti ce week-end et est disponible sur toutes les plateformes de streaming, bien évidemment. Avant de conclure cette émission, nous vous proposons un reportage de la série L'économie autrement, réalisé par les radios de la Corlab. La Corlab, c'est la coordination des radios locales et associatives de Bretagne. L'économie autrement en avance sur son temps et en partenariat avec le SEIS, la saison des expérimentations et innovations solidaires organisée par Ascoria, école des métiers du social. Nous vous emmenons à la rencontre de personnes qui construisent l'économie de demain, plus solidaire, plus éthique et plus humaine. Aujourd'hui, Radio Laser vous emmène au cœur du quartier populaire du Blône à Rennes pour une réunion. Elle préparait le 3 novembre dernier une rencontre avec les habitants du quartier. Le but, expliquer ce qu'est un centre communautaire de santé.
L'économie autrement, le rendez-vous quotidien de l'économie sociale et solidaire en Bretagne.
Si on prenait une convention qu'on l'appliquait, que gnagnan et un modèle d'organisation, et ben en fait on a juste à acheter des tables de consulte et des abaisse-langues et on ouvre demain quoi. Sauf qu'en fait comme on veut faire quelque chose de nouveau, nouveau, original dans le sens où on plaque pas un modèle tout fait, mais en fait tout est, même au niveau des financements, on est toujours à la croisée de plein de choses.
Donc, je suis Fanny Guillon, je suis coordinatrice de l'association Centre de Santé Communautaire du Blône. Et je suis salariée donc depuis janvier. Et l'association elle existe depuis juin 2019.
Ce projet, en quoi consiste-t-il ?
C'est la création d'un centre de santé communautaire au Blône, où on proposera des consultations médicales individuelles et aussi des actions collectives autour de la santé. Le cœur du projet, c'est les habitants d'un quartier, c'est bien le territoire. Et donc, un des gros challenges de la création du projet, du centre, c'est comment on implique les habitants en amont et puis ensuite comment on implique les habitants par la suite dans les activités du centre et notamment dans la gouvernance.
Ça veut dire que vous savez déjà ce qu'on trouvera dans ce centre de santé ?
En termes de consultation, il y aura des médecins généralistes, donc 4 médecins, un infirmier d'éducation thérapeutique, donc on appelle infirmier azalé, une sage-femme et une orthophoniste. Il y aura un médiateur en santé qui sera chargé de faire le lien entre les professionnels de santé et les habitants, entre les structures et les administrations et les habitants, qui sera une sorte de facilitateur d'accès aux soins. Il y aura des accueillants donc dans notre espace d'accueil qu'on veut convivial qui soit un espace de discussion et pas une simple salle d'attente. Et puis il y aura des coordinatrices, 2 coordinatrices gestionnaires pour mener la danse.
Dans les zones plus rurales, on parle beaucoup de maisons de santé. C'est quoi la différence ?
Alors une maison de santé, c'est des professionnels de santé libéraux qui se regroupent dans un même lieu. Avec un projet de santé commun, mais on est bien sur des professionnels libéraux. Là, le centre de santé, on est salarié d'une structure, donc les professionnels ne sont pas payés à l'acte, mais sont salariés, donc on a un salaire fixe. Là, nous, on fait le choix d'une structure associative, mais les centres de santé peuvent être municipaux, c'est-à-dire que les professionnels sont salariés d'une municipalité, ils peuvent être mutualistes. Il y a plusieurs modèles, mais le cœur, c'est bien le salariat, l'accessibilité à tous, donc pratiquer le tiers payant, voire le tiers payant intégral, et des plages horaires d'ouverture qui vont du lundi matin au samedi midi minimum. Donc il y a un cahier des charges quand même pour être centre de santé.
Avec un service d'urgence également ?
Non, il n'y a pas de service d'urgence. Il peut y avoir des consultations qu'on appelle fil rouge, c'est-à-dire qu'il y a des consultations programmées et des consultations non programmées. Mais après, il y a des urgences de médecine générale, c'est-à-dire que les gens peuvent être vus en urgence. Mais après, il n'y a pas de service d'urgence à proprement parler. Les gens devront continuer à aller aux urgences pour ce qui relève des urgences.
Ce reportage a été réalisé par la Corlab. Retrouvez-le en podcast sur corlab.org.
C'est vous qui le dites, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Victor Garcia de l'association Ma Pince, responsable d'avoir été avec nous. On vous rappelle que si vous voulez plus d'informations ou les rejoindre, vous pouvez aller checker leur Facebook, leur page Instagram et même leur site internet. On remercie également Marie-Yvonne Cariou de la LDH et Aurélien Chêne, élève de première à Anne-Marie Javouet. Ils venaient nous présenter le concours de plaidoirie qui aura lieu le 6 avril au lycée du Puy-de-Lôme. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur radio-u.org. À suivre d'ici 5 minutes, ce sont les sportifs du lundi. Bonne soirée sur le 101.1 de Radio U.